En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour. À 75 ans, Claude Lorius, grand glaciologue et expéditeur, membre de l'Académie des sciences, n'a rien perdu de son franc-parler. Dans quelques instants, nous vous proposons d'écouter la retransmission de la conférence consacrée aux résultats de ses multiples voyages qui, à chaque fois, ont fait date en matière de recherche. Il s'exprime, vous allez l'entendre, face à un public de lycéens lors de la Semaine de la Science en octobre 2007. C'était à l'Institut de France. Dès 1957 et jusque dans les années 90, Claude Lorius parcourt les pôles avec une préférence pour le pôle sud. Et à chaque fois, l'équipe scientifique dont il fait partie relève les températures, l'épaisseur de la glace et son altitude, car à cette époque, il s'agit encore de zones inconnues pour les hommes. Suite à un forage réalisé à Vostok en 1984, Claude Lorius fait une affirmation révolutionnaire, qui peut paraître aujourd'hui un peu banal, mais qui était loin de l'être 25 ans auparavant. À travers le taux de CO2 prisonnier dans la carotte de glace longue de 2200 mètres, il déduit que la planète devrait se réchauffer au cours du XXIe siècle au risque d'affecter les ressources en eau, l'agriculture, la santé, la biodiversité et d'une façon générale, les conditions de vie des humains. Plusieurs décennies plus tard, ses travaux ont servi la cause de ceux qui militent pour un respect minimal de la nature, au premier duquel Al Gore, prix Nobel de la paix 2007, car son film « Une vérité qui dérange » s'appuie en partie sur les résultats de Claude Lorius et de ses équipes. Vous l'aurez compris à travers le récit de ses expéditions et de ses instantanés de nature sauvage amenés à s'éteindre, Claude Lorius souhaite faire prendre conscience à notre jeune génération de ce qui les attend sur un plan écologique et climatique. On l'écoute.
Ce dont on va parler aujourd'hui, effectivement, c'est des recherches qui ont porté sur le réchauffement climatique à partir de ce qu'on a appris dans la glace. Des recherches qu'on a commencées il y a une cinquantaine d'années et qui se sont encore d'actualité. Bon, je ne sais pas ce que vous savez, probablement beaucoup de choses. Cette présentation n'a pas pour but d'être d'un objectif scientifique très détaillé, mais c'est pour vous montrer le cheminement que vous entreprendrez peut-être un jour. Quand à l'âge de 25 ans, on a le béguin pour les régions polaires, qu'on commence à se lancer dans une recherche et qui nous mène, eh bien, jusqu'à maintenant. Et ben voilà de quoi on va parler. Des glaces et du climat. On va illustrer un certain nombre de campagnes qu'on a fait dans les régions polaires. Alors maintenant, elle est pressée, bien sûr. Et donc, elle appuie, elle va vite. Bon. Les régions polaires, c'est d'abord l'endroit où se trouvent toutes les glaces de la Terre. Essentiellement sous deux formes. La banquise que vous voyez ici au-dessus du pôle Nord. La banquise que vous voyez ici autour de l'Antarctique. Et les Inlandsis, le Groenland, l'Antarctique. Alors, c'est énorme l'Antarctique, hein, c'est 30 millions de kilomètres cubes, et ça veut dire que s'il n'y avait pas de glace en Antarctique, le niveau des mers serait en gros plus haut de 70 mètres. C'est pas pour dire que l'Antarctique va fondre comme ça du jour au lendemain, mais c'est pour vous donner une idée. Et vous voyez que les surfaces couvertes, l'Antarctique c'est 15 millions de kilomètres carrés, vous voyez que la banquise en Arctique c'est aussi du même genre. Et les glaces jouent un rôle particulier dans le système climatique. Et ça c'est l'illustration de ce que je vous racontais avec mon petit glaçon. Un iceberg qui vient d'un glacier qui était sur le continent. Quand il va arriver à la mer et qu'il va fondre, il fait monter le niveau des mers. Et ça, c'est la banquise. Donc, ce qui oppose d'abord les deux formations, c'est que les calottes polaires, l'unité, c'est 2 kilomètres d'épaisseur, si vous voulez. La glace de mer, c'est quelques mètres. Et donc, effectivement, cette glace de mer est beaucoup plus sensible aux variations du climat. Et pour dire quelques mots encore sur les glaces, qui est quand même mon domaine préféré, c'est que les glaces sont d'abord les témoins du changement climatique. Quand il fait chaud, les glaciers reculent, la banquise fond et inversement. Deuxièmement, ce sont des acteurs dans le changement climatique parce que La banquise, par exemple, la glace en général, renvoie 90% de l'énergie qui vient du soleil. Donc quand cette banquise fond, au lieu que cette énergie reparte vers l'espace, eh bien elle va être absorbée par le système Terre. Ça amplifie donc les variations climatiques. Et les zones actuellement qui sont les plus sensibles au réchauffement actuel, eh bien c'est l'Arctique. Et puis, on va parler beaucoup là de l'autre aspect, c'est-à-dire les archives qu'il y a dans ces glaces, dans ces inlandices, et qui concernent l'histoire du climat et de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une carotte de glace, là, c'est quelque chose qu'on va extraire en profondeur, qui a un diamètre d'à peu près 10 cm. Donc, vous ne serez pas surpris si des fois je dis, eh bien, on a prélevé une carotte et on dit que la composition de l'atmosphère partout sur la Terre, eh bien, c'est ça. Et quand on regarde la glace, examinée ici sous un microscope lumière polarisée, vous avez les cristaux de glace qui apparaissent avec différentes couleurs. C'est l'analyse de ces cristaux qui va nous donner la température du passé. Les cristaux, c'est de l'eau, H2O. On en redira quelques mots. Et puis, vous avez dedans tout un tas de choses, des petites poussières qui sont aussi bien des traces de pollution ou des retombées d'éruptions volcaniques ou d'explosions nucléaires. Mais surtout, vous avez des bulles de gaz, et ce sont les bulles dont je vous disais qu'on a pensé à ça en buvant un whisky un soir. Alors, cette quête-là de la glace des régions polaires a commencé pour moi il y a 50 ans. Il y a 51 ans, je partais là pour l'Antarctique. Donc à cette époque, on ne connaît rien. Bien sûr, il y a eu Scott, il y a eu Amundsen, ils sont allés jusqu'au pôle sud, mais on ne connaît rien de l'Antarctique. On ne sait pas quelle est l'étendue, quelles sont les épaisseurs, combien de neige y tombe, et c'est vraiment l'exploration. Et l'exploration va commencer, alors je l'ai résumé un petit peu dans ce cercle-là, on parlera que de l'Antarctique aujourd'hui. Donc vous avez un continent qui fait 15 millions de kilomètres carrés, en gros c'est grand comme l'Europe. Vous avez des altitudes de glace qui vont jusqu'à 4000 mètres dans les régions centrales, qui sont très faibles dans les régions côtières. Et en ce qui me concerne, j'ai travaillé sur toute cette zone là, qui fait donc 5-6 millions de kilomètres carrés. À une époque où on a commencé à aller, j'ai passé un an à la station Charcot, là, et à faire des raids d'exploration, et ensuite des forages à partir des lignes vertes que vous voyez là, qui nous ont permis de remonter dans le temps. Alors ces quelques mots, vous les reverrez dans la suite. Charcot, Dôme Concorde, Vostok, ce sont des étapes dans notre recherche et dans nos découvertes. Alors, commençons par la station Charcot. C'était le challenge, pourquoi je suis parti, moi. J'étais moyennement motivé. Ce qui m'a motivé, c'était l'aventure. Là, le challenge, c'était passer un an dans cette petite baraque qui était enneigée, 20 mètres carrés de surface, 2 mètres de hauteur maximum, et rester un an avec deux compagnons là-dedans ben, pour faire des expériences et des mesures. C'est pas une année qui a été très facile, si vous voulez, c'est pas comme maintenant en Antarctique où vous avez Internet ou tout ça, non. Nous, on avait une éolienne et le jour où il a fait moins 40, on n'avait plus d'énergie. Donc après, on fabriquait de l'électricité en pédalant à la main et envoyait un mot à la base côtière pour dire qu'on n'était pas mort. Mais donc les liens familiaux et même proches étaient extrêmement difficiles. Enfin, on a passé un an là et... Voilà les conditions de vie dans la baraque. On a quand même un coin un petit chaud. Dans les 20 mètres carrés, hein, il y a une cuisine, il y a de quoi coucher, il y a les instruments scientifiques, il y a la radio, enfin il y a un peu tout. Et c'est pas... Ça va. Alors on travaille quand même et là on fait nos premiers prélèvements, c'est-à-dire qu'on prend des échantillons. Là, on a fait un trou dans la neige, on prend des échantillons, on est capable à l'œil de voir les couches qui se sont formées en été, de celles qui se sont formées en hiver. Et je me suis aperçu, Anne, que le compte-rendu que j'avais fait à l'Académie des sciences, il y a, je sais pas, 45 ans, porte là-dessus. C'est-à-dire qu'en étudiant la glace, on était capable de déterminer les années l'analyse des couches d'été donnant des résultats différents de ceux des couches d'hiver. Donc là, effectivement, cet aspect a commencé. Mais c'était donc obtenir en un point, pendant un an, qu'est-ce qui se passe, comment varient les températures, combien il tombe de neige, l'épaisseur de la glace, bien sûr. Mais le volet suivant était fondamental, c'est-à-dire qu'il fallait explorer un peu le continent. Et donc, je suis parti dans un raid avec les Américains, un an et demi après, là, en terre de Victoria, dont vous avez vu le tracé sur la première figure. Alors, là aussi, on sait déterminer les épaisseurs de glace. Hein, il y a la sismique, on fait des petits booms. Bon. Le problème, c'est que on sait mesurer la température le jour où on passe. Et la première chose que l'on voulait savoir, c'est quelles étaient les températures moyennes annuelles des lieux où l'on se trouvait. Alors, on avait mis au point une petite technique assez simple. Quand on fait un trou une vingtaine de mètres de profondeur, avec une foreuse, on laisse un thermomètre et on le remonte 2 heures après et vous avez la température moyenne annuelle du lieu. Chacun sait que les variations de température sont très grandes en surface, mais qu'elles s'atténuent avec la profondeur. On a donc mis en application ce genre de principe en découvrant ce continent. Et voilà, par exemple, les carottages qu'on pouvait faire, que vous le voyez dans des conditions assez rustiques. Enfin, on aimait ça, nous, à l'époque. Hein. Et, des tas de problèmes dans ce raid, les crevasses. Et pour vous dire, le point des connaissances qu'il y avait à cette époque, c'est que on a découvert une chaîne de montagnes qui n'était cartographiée nulle part. Et comme les Américains ne sont pas comme les Français, il faut attendre d'être mort pour avoir son nom quelque part, eh bien, les Américains ont dit qu'il y avait un mont Laurius quelque part, là, dans cette chaîne de montagnes qu'on avait découvert. J'espère que vous aurez de telles possibilités. Donc, un an à la même place, un raid d'exploration de 4000 km, hein, on se déplaçait pas vite, ça a pris du temps. Et voilà la relation empirique que l'on établit. On visite des endroits où l'on mesure la température moyenne et on analyse la glace. Analyser la glace, en l'occurrence, c'est-à-dire la glace, c'est de l'eau, des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène, mais il y a des atomes d'hydrogène de masse 2, le deutérium, de masse 1, il y a de l'oxygène 18, de l'oxygène 16, et donc on tombe sur on en avait une vague idée d'après les théories, on tombe sur cette relation empirique tout à fait extraordinaire. En étudiant la composition de la glace, on est capable de remonter à la température. Alors, évidemment, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est d'aller voir dans le passé, de remonter dans le temps et d'essayer de décrire l'histoire des variations du climat de la Terre. Alors, une petite coupe de la calotte glaciaire, là qu'on avait fait à l'époque, une modélisation un peu simple. Mais si vous voulez, qui vous donne la surface de la calotte glaciaire, le socle rocheux, donc les profondeurs, et qui vous indique que chaque flocon qui tombe va être recouvert par d'autres, et tout ça va finalement gagner la côte. Actuellement, on pense qu'il faut à peu près, en moyenne, 500 000 ans pour un flocon de neige qui tombe dans les régions centrales pour atteindre la côte. Je dis bien en moyenne parce qu'il y a plus, il y a moins. On voit aussi dans ce profil qu'on avait en Terre Adélie l'épaisseur maximum de glace. Vous voyez cette fosse, donc 4400 mètres d'épaisseur de glace là. Et à partir de ce modèle, donc, on avait une idée de l'âge des échantillons qu'on allait recueillir et on s'est attaché à forer dans les régions centrales pour remonter loin dans le temps. Donc le problème après, c'est pas les raids d'exploration, c'est pas rester en un point fixe pendant un an, c'est d'aller en un site où on a envie de remonter dans le temps parce qu'on pense qu'il est intéressant. Et là, c'est pas du tout le même genre d'équipement, ce sont des matériaux très lourds pour forer à travers 2-3 kilomètres de glace. On fait pas ça avec nos petites arrières que vous avez vues tout à l'heure. C'est donc cette carotte de glace là qu'on va sortir par différentes techniques dont je ne vais pas parler, Parfois, actuellement, jusqu'à plus de 3600 mètres de profondeur. Ça prend du temps. Alors, la première, vous reconnaissez cette carte, bien sûr, et le premier forage qu'on a fait, c'est au Dôme Concorde, là. On avait, en raid, essayé d'atteindre ce site avec les tracteurs français, on n'y est jamais arrivé, jusqu'au jour où les Américains nous ont dit « mais nous, on veut bien vous emmener là-bas, parce qu'on pense que c'est intéressant de faire ce forage ». Donc, ils nous emmènent pour faire la reconnaissance du site. On a commencé dans les années 57, on est maintenant en 74. Donc, vous voyez le temps que ça prend, il faut organiser les campagnes, il faut trouver les techniques, il faut trouver l'argent, il faut... Bon. Et montrer qu'on a des choses à faire. Donc, les Américains disent, on vous emmène, et c'est là qu'on va faire effectivement notre premier forage. Alors, pour aller dans les régions centrales, les Américains utilisent des C-130, donc, qui sont encore actualisés, utilisés dans d'autres régions, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont montés, les patins sont des skis qui permettent de glisser sur la neige. Donc on travaille pendant 30-40 jours, on prend des échantillons, on pense que c'est bien. Et l'avion américain vient nous récupérer en disant « ben, on reviendra l'an prochain ». Le problème, c'est que pour décoller, vous avez vu, la surface est parfois rugueuse. Il y a des fusées qui sont placées sur le côté de l'avion. Et là, manque de chance, les fusées ont mis le feu à la carlingue. Bon, il n'y a pas eu de mort, mais on a eu coup sur coup deux accidents. Et donc les Américains n'avaient plus guère d'avions, parce qu'ils ont tout 5 avions pour l'ensemble de l'Antarctique. Il y en avait 2 au sol, un troisième dans l'air, là dans cette opération. Eh bien, les Américains ont mis 2 ans, c'est Boeing, hein, c'est pas Airbus, pour récupérer ces avions. Et nous ont dit, mais on pense que c'est toujours intéressant, alors revenez. On est revenu 2 ans après. Et c'est le premier forage qu'on a obtenu dans cette station, vous avez vu, Dôme C, où en remontant à peu près à 1000 mètres de profondeur, on avait des échantillons couvrant à peu près 40 000 ans, avec une courbe du climat qui montre qu'il faisait très froid, moins 65 en moyenne, qu'il faisait très chaud, si l'on peut dire, moins 55, depuis à peu près 10 000 ans, et la transition entre un climat glaciaire et un climat chaud tel que celui que nous connaissons. En moyenne sur la Terre, cette transition est de 5 degrés. Je vous ai dit pourquoi dans les régions polaires, elle était beaucoup plus marquée. Et en Antarctique, c'est 10 degrés centigrades. Donc nous, là, on est très contents. On a effectivement la preuve que dans cette carotte de 10 cm, on a une idée du climat de la Terre, à l'amplitude près, bien sûr, mais la succession des âges glaciaires ou pas. Et donc, pour vous donner une petite base, la différence essentielle entre aujourd'hui et il y a 20 000 ans, c'est-à-dire la fin de la dernière période glaciaire, vous voyez là d'immenses calottes qui couvraient l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, le Groenland est là et il en reste un peu, tandis que nous sommes là aujourd'hui, et ça, c'est la fusion de ces glaces qui reposaient sur les continents, qui ont fait monter le niveau des mers de 125 mètres. Ça a pris, bien sûr, quelques milliers d'années. Mais donc, on avait une image pour la première fois de cette grande et dernière transition climatique. Alors, le site où j'ai foré, moi, il y a une trentaine d'années, est devenu un site où un programme européen qui s'appelle EPICA a beaucoup travaillé, mais comme vous le voyez, il a fallu des années pour arriver au-delà des 3000 mètres de profondeur. Mais on dispose maintenant, les analyses sont encore en cours, de résultats qui couvrent à peu près 1 million d'années et qui vont confirmer ce que nous avons obtenu il y a quelque temps, cette fois à la station Vostok. Alors, l'opération à la station Vostok, c'est un petit peu particulier parce que on est en plein milieu de la guerre froide. Vostok, c'est une base occupée par les Soviétiques. Et pour y aller, ben, nous, on n'a pas les moyens, sauf de nouveau d'obtenir un avion américain. C'est donc en plein milieu de la guerre froide une opération qui sera montée entre Soviétiques, Américains et Français. Et vous voyez qu'on est loin du Mont d'Urville, qui est la base côtière, et c'est là qu'on va aller voir un petit peu ce qu'on trouve dans la glace. Donc, on en est maintenant dans les années 80 et 90, hein, parce que les années passent et les progrès, ma foi, arrivent de temps en temps. Quand on part à la base Vostok, qu'est-ce qu'on sait du climat de la Terre? On sait qu'il y a des chauds et des froids. On n'est pas les premiers à l'avoir dit. Il y a notamment les études des sédiments marins qui disent qu'il fait chaud à peu près tous les 100 000 ans. Entre-temps, le climat est beaucoup plus froid. Et puis, les variations du niveau des mers à cette échelle-là, effectivement, c'est 120 mètres, c'est-à-dire beaucoup de glace qui fond. Les températures moyennes sur la Terre changent à peu près 5 degrés centigrades. Et ça, l'explication en avait été donnée déjà par les astronomes. C'est la théorie dite de Milankovitch. La Terre se balade autour du Soleil en décrivant une ellipse plus ou moins aplatie avec une périodicité qui est de l'ordre de 100 000 ans. La Terre, elle a un axe de rotation qui tourne sur lui-même, qui s'incline aussi en fonction du temps. Et il y a donc dans ce mouvement des périodes caractéristiques qui sont en gros, de façon simple, 20 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans, et qu'avaient su calculer les astronomes en disant, voilà, c'est ça qui est responsable de la succession des périodes chaudes et des épisodes glaciaires. Alors, évidemment, quand aller là-bas, c'était toute une opération diplomatique, hein, pour obtenir tous ces accords, mais ça s'est pas fait officiellement, je dirais. C'est parce que les scientifiques se rencontraient de tout temps, qu'il y avait eu la néogéophysique, le traité de l'Antarctique. On est donc à monter, arriver cette affaire. Et pour nous, Vostok, c'est le point mythique parce que c'est là qu'on a mesuré sur Terre la température la plus basse, moins 89 degrés centigrades. On y va en été, hein. Donc c'est seulement moins 65. Mais quand même, alors les soviétiques, les russes, qui feraient là, ma foi, ils ont passé beaucoup de temps. Et la première, je résume dans quelques courbes les résultats essentiels qu'on a eus. Nous sommes ici à, je sais pas, 3000 mètres de profondeur et nous avons 400 000 ans d'archives. Et sur cette courbe en bleu, c'est la variation du climat dans le temps. Où vous voyez ces épisodes chauds qui se reproduisent à peu près tous les 100 000 ans. Pour ceux qui ont l'œil un peu mathématicien, vous voyez ces périodes de 40 000 ans et de 20 000 ans qui sont dessinées là. Et donc, nous, on est ravis parce que, de nouveau, on a la preuve qu'une carotte, quelque part dans les régions centrales, c'est vraiment l'image de ce qui se passe sur le globe à l'amplitude près. Les changements climatiques sont deux fois plus marqués là-bas. Alors, il y avait une faille un peu dans cette théorie, c'est que quand on calcule la différence d'énergie qui arrive sur la Terre en fonction de sa position par rapport au Soleil, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi les variations étaient aussi marquées. Bon, la première chose, c'est les variations du niveau des mers. C'est pas nous qui les mesurons, mais là encore, on voit bien que ces grandes variations climatiques ont engendré des variations du niveau des mers, sont des résultats des sédiments marins, de l'ordre de 125 mètres. On a de nouveau sur 400 000 ans quelque chose de représentatif. Et le pas, là, dont l'idée nous est venue, là, ou m'est venue, en buvant un verre de whisky avec un glaçon, c'est qu'entre-temps, on a appris à mesurer, à récupérer ces bulles et à mesurer leur composition. Et donc, la trouvaille, c'est, je crois que c'est la courbe suivante. Vous avez la température au milieu, toujours la même courbe, et vous avez le méthane et le gaz carbonique, le CO2. Donc, on va regarder le CO2, et vous voyez que chaque période chaude est accompagnée de teneurs plus forte en gaz à effet de serre. Alors il faut bien voir que c'est pas l'homme qui faisait changer la composition de l'atmosphère. Mais pour vous donner une idée simple, lorsque l'océan se réchauffe, il dissout moins de CO2. Il y en a donc une partie qui repasse dans l'atmosphère. Et c'est cette partie qui repasse dans l'atmosphère qui va amplifier le réchauffement climatique. On a donc, il y a une vingtaine d'années, dit que ces grandes variations climatiques du passé, eh bien, il y avait déjà un facteur d'amplification qui était dû au gaz à effet de serre, qui était à l'époque un phénomène naturel. Et bien sûr, On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe dans le futur. Ben, je dis rapidement, l'effet de serre, une partie de l'énergie est renvoyée vers l'espace, le reste arrive, traverse l'atmosphère, arrive sur la Terre, elle est absorbée, une partie est réfléchie. L'important, c'est que le rayonnement émis par le Soleil traverse l'atmosphère sans problème, tandis que le rayonnement émis par la Terre, c'est 15 degrés en moyenne, c'est dans l'infrarouge, ce n'est pas dans le visible, et alors là, la vapeur d'eau, les gaz à effet de serre, tout ça intervient pour absorber une partie de ce rayonnement et conduit donc au réchauffement climatique de la Terre. Ah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet européen, je vous ai fait voir des résultats sur 400 000. On a la même chose avec certains raffinements, maintenant sur 800 000 ans, qui sont en train de finir d'être publiés. Alors, comment placer ces grands changements climatiques naturels, je dirais, dans le contexte actuel qui est le dernier millénaire, le dernier siècle, parce que, comme on le sait, comme le montre ce tableau, eh bien, les canaux étaient gelés alors qu'on est théoriquement en période froide. Il y a donc eu des variations climatiques un peu de tout temps qu'on peut résumer dans ce temps. Ce sont des reconstitutions faites sur le dernier millier d'années. Premièrement, vous regarderez l'échelle. On n'est pas en train de parler de 5 degrés centigrades, mais de 0,5 degrés centigrades. Donc, c'est pas du tout le même ordre de grandeur que les variations climatiques qu'on a vues tout à l'heure. Et vous voyez que dans la période récente, il n'y a pas les dernières années, mais à chaque fois, on monte un peu plus haut. Il est clair que les émissions de gaz à effet de serre changent totalement la donnée et que ça se traduit déjà par un réchauffement sensible. Et de nouveau, il a fallu se tourner vers la glace pour dire mais en quoi il y a plus de CO2. On ne mesure dans l'atmosphère les concentrations en CO2. Ben tiens, au moment où je suis parti, l'année géophysique internationale est à 50 ans. Mais on n'avait pas de vue historique avant. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'atmosphère? Et c'est de nouveau en allant regarder dans les bulles de la glace qu'on a vu le dernier millénaire, ça bouge un peu, oui, c'est relativement constant, et une envolée avec ce qu'on appelle l'époque industrielle qui commence au milieu du 19e siècle. Et donc le lien de cause à effet nous paraît assez bien marqué. Et là, il ne s'agit pas de reconstitution, mais il s'agit de la moyenne des observations climatiques faites sur la Terre. Et de nouveau, on n'est pas tout à fait à jour, là, dans les parties hautes. On conclura donc qu'on observe actuellement un réchauffement climatique de l'ordre de 0,6-0,7 degrés centigrades, qui n'est pas régulier, qui s'effectue par paliers, qui n'est pas le même partout. Il est variable géographiquement, mais il n'y a plus guère personne qui ose dire que le climat ne se réchauffe pas. Bon, les preuves autour de nous sont multiples. Moi, je sais qu'il y avait lu beaucoup Hemingway, le Kilimandjaro, on ne le verra plus. Enfin, on ne le verra plus enneigé. L'épaisseur de la banquise diminue, ce que nous disent les sous-marins. Et surtout, l'étendue de la banquise, c'était là en 1979 et c'est là en 2005. C'est la banquise avant, elle empêchait la communication entre les deux océans, Atlantique et Pacifique. Or, il faut voir que une des retombées importantes de ce réchauffement climatique, c'est ça a à voir avec des conditions économiques. Je ne parle pas seulement de la possibilité de passer un océan à l'autre qui va changer pas mal de conditions économiques, mais actuellement le gros sujet c'est que il y a des réserves considérables d'énergie fossile qui sont sous la banquise, et notamment au pôle Nord, où les Russes sont allés il y a pas très longtemps planter un drapeau pour dire que peut-être ce pôle Nord était à eux. Avant, on s'en préoccupait pas parce qu'on n'y arrivait pas à y aller. Bon, tout d'un coup, il semble que dans les décennies à venir, ça va être accessible. Et donc, c'est une guerre économique dont, fort heureusement, la solution viendra des observations scientifiques. Parce que il y a les pays riverains, il y a aussi ceux qui sont complètement en dehors comme la Chine. Mais il faudra qu'il y ait des études géologiques assez précises pour montrer si un pays a effectivement un socle continental qui se prolonge jusqu'au pôle Nord. Donc c'est un problème largement ouvert, mais qui va déchaîner pas mal de, qui a une importance, parce que tout le monde a entendu parler des problèmes de, d'épuisement des sources d'énergie fossile. Alors on voit apparaître au Groenland déjà des traces de fusion, vous voyez ces rivières. En Antarctique, on ne voit pas grand-chose, hein, parce que quand vous avez un continent où il fait en moyenne moins 20, moins 30 à la côte, même si vous perdez 2 degrés, vous ne voyez rien. Au Groenland, il y a des zones là où la fusion commence à être particulièrement sensible. Et puis les impacts habituels aussi, enfin, qu'on voit déjà très nettement en Arctique, où j'ai dit que le réchauffement climatique était très marqué, eh bien c'est sur les populations locales, les Inuits, qui vivent de la chasse et de la pêche, et que sans banquise stable, eh bien ils ont des tas de problèmes, des tas de problèmes qui touchent à la biodiversité. Les ours, par exemple, pour se reproduire, ont besoin d'une banquise qui soit stable suffisamment de temps pour que le on peut dire le bébé, là, c'est un bon mot, pour que le petit puisse, pour que l'ourson, tiens, ouais, c'est bien plus joli ça, pour que l'ourson puisse se développer et devenir autonome. Donc ça, c'est quelques exemples. Alors, j'aurais voulu peut-être vous parler maintenant un petit peu, sortir du problème purement réchauffement climatique et parler des aspects qui touchent à la société. Ça, ce sont des mesures dans l'atmosphère, effectivement. Depuis 1960, là, on voit le CO2 qui monte bien. Et je veux vous resituer où nous sommes dans cette affaire du CO2. Ça, c'est ce que je vous ai montré, les courbes sur 400 000 ans. C'est là où nous sommes maintenant. Et c'est là où nous serons à la fin du siècle. Donc vous voyez bien que jusqu'à maintenant, la Terre était dans un système où elle s'auto-régulait. Et vous voyez bien qu'on a complètement brisé l'équilibre et que maintenant, le paramètre le plus important pour les variations climatiques aux échelles de temps de l'ordre du siècle, ce sont les gaz à effet de serre. Alors, avec ces prévisions de gaz à effet de serre, voilà ce qu'on dit de la température. Avec, comme vous le voyez, une large marge d'incertitude, on peut dire entre 2 et 6 degrés centigrades. Ce sont les modèles là qui donnent ça, avec deux incertitudes majeures. D'abord, la première, c'est que le réchauffement ne sera pas forcément marqué partout pareil. Tout le monde a entendu parler du Gulf Stream, à savoir que la redistribution des températures par les courants qui circulent en profondeur font qu'on pourrait avoir plus froid dans les côtes de Bretagne que le climat qu'on a maintenant. Tout ça, ce sont un petit peu des scénarios, mais globalement, la Terre va se réchauffer. Et pour en revenir sur les incertitudes, la chose qui commence aussi à faire un peu peur, c'est la hausse du niveau des mers. Elle est faible, de l'ordre de 18 cm à peu près depuis un siècle, mais voilà ce qui risque d'arriver, un demi-mètre, un mètre à la fin du siècle. Et ça, c'est déjà catastrophique actuellement, parce que dès qu'on parle d'inondation, vous savez bien qu'il y a des millions et des millions de personnes qui sont déjà les pieds dans l'eau et qu'il va falloir déplacer. Donc c'est à terme un peu plus lointain, mais c'est tout aussi porteur de problèmes de société. Alors, vous avez vu cette gamme large, il y a, en dehors du fait que ce ne sera pas partout pareil et tout, il y a des problèmes essentiels. On connaît mal le système climatique. Par exemple, le rôle des nuages qui, selon leur altitude, la façon dont ils sont constitués, peuvent réchauffer ou refroidir le climat terrestre. Et puis surtout, c'est l'objet de pas mal de débats, y compris au Grenelle de l'environnement, quelle source d'énergie on va utiliser. La France est ici en violet, on bouffe pas mal de pétrole, et on a du nucléaire. Comme vous le voyez, un certain nombre de pays ont des comportements différents, et c'est sûr que, suivant l'énergie qu'on va choisir, on va se trouver en haut ou en bas de la courbe climatique, ce qui ne préjuge pas de problèmes possibles, par exemple, si on utilise le nucléaire, pour des problèmes autres que le problème purement climatique, bien sûr, les problèmes de déchets, de sécurité et tout. Mais on ne va pas entrer dans ce problème-là. C'est juste pour vous dire que un des problèmes importants, là, c'est celui des transports, c'est-à-dire nos automobiles, les camions. Et j'aime bien remonter cette image-là parce que, à l'époque, Sarkozy, le président Sarkozy, était ministre de l'Intérieur. Et il avait la responsabilité un peu de la circulation. Donc, quand j'ai fait voir une conférence, on m'a dit, mais que fait Sarkozy? On voit bien que ce camion-là, il est en train de déraper et qu'il est en infraction. Voilà. Bon, alors, je sais pas, il a peut-être pas été mis au courant, mais enfin, celui-là, il est passé. Mais c'est pour dire que les transports seront un problème. Alors, si je voulais terminer par quelques généralités, je crois qu'on a pris maintenant conscience de l'importance des problèmes d'environnement et que nos activités humaines, eh bien, posent des problèmes de ressources, de pollution, de déchets. Ils affectent le climat. Les événements extrêmes dont les modèles disent qu'on va les voir de plus en plus fréquents, la canicule de 2003, tout ça, donc c'est annoncé par les modèles. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de données qui permettent d'être tout à fait optimistes. Ces affaires de climat touchent tout, hein, atmosphère, océan, continent. L'impact est régional ou global, suivant qu'on pense aux pauvres glaciers qui sont là, à nos forêts, à la biodiversité, au niveau des mers, tous des termes qui sont importants pour la vie de notre société, que ce soit en termes d'économie, de santé, ou simplement de confort et de conditions de vie. Alors, faut pas croire que c'est facile de dire, bon, ben, yaka. Ça, c'est ce qu'on disait en expédition, à chaque fois qu'il y avait un truc, on disait yaka. Bon, après, faut le mettre en œuvre. Or, les chercheurs ou les ingénieurs, je vous l'ai dit, ils ont un peu des incertitudes. Le climat, ce sera plus 2, plus 5. Bon, l'ingénieur, c'est quelle source d'énergie utiliser. On ne sait pas trop, hein, on cherche. Le citoyen, c'est vous et moi, on est plutôt pour notre confort. Les organismes comme Total, ils ne voient pas trop d'inconvénients à ce qu'on continue d'utiliser des carburants fossiles. Et lui, le gouvernement, parce que c'est vers lui qu'on se tourne, mais il faut jamais oublier une chose, c'est que la durée de vie d'un gouvernement, c'est 4 ans. Et que c'est quelque chose, c'est un problème important pour moi, parce que un gouvernement qui veut imposer des mesures qui ne seraient pas populaires, c'est-à-dire suivies par la majorité, il signe son décret de mort. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas facile, y compris pour les politiques et les décideurs. Ce qui fait que depuis Rio, Kyoto, on a fait des progrès en théorie, mais pratiquement, vous voyez, on relance le Grenelle dans l'environnement chez nous maintenant, mais on est loin d'avoir une idée de la façon dont on va arriver à modérer ces problèmes liés au réchauffement climatique. Alors, les quelques pistes, hein, elles sont économie d'énergie, changer le mode de vie, faire de la recherche fondamentale. Et là, si vous voulez, une des tendances actuelles, c'est de faire de la recherche ciblée et sur des objets bien définis, alors qu'il faut surtout continuer à faire de la recherche fondamentale. Moi, je cite toujours l'exemple. Si moi, j'avais dit, en demandant de l'argent pour aller monter une expédition, mais on va s'occuper du réchauffement climatique, j'en avais aucune idée. Donc, c'est la recherche fondamentale qui, de temps en temps, ouvre des postes. Il faut lui laisser une place. Et puis, il faut bien avoir conscience, d'après cette image des lumières du monde, que c'est pas une ville, un pays qui va s'en sortir et que toutes les nations sont concernées. Et là aussi, il y a bien des choses à faire. Mais c'est de cette façon que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme est maître de son climat. Et ça, c'est une chose fondamentale que l'on voit pour la première fois. Voilà. Alors, la campagne que j'ai voulu décrire, c'est celle à la station Vostok. Je vous ai dit déjà pourquoi. Elle est quand même emblématique. Elle est dans une base soviétique, en pleine guerre froide, un avion américain et tout ce qu'on veut. C'était vraiment marquant. Et d'autre part, ces courbes que vous avez vues, là, que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a un film où vous les verrez beaucoup mieux. C'est le film de Al Gore. Il a simplement oublié de dire que ces courbes, c'était les nôtres. Mais bon, on peut pas... C'est comme ça. Bon, ça fait rien. C'est bien l'impact qu'il a au niveau politique. Donc, à cette époque, on part avec un avion américain de la Nouvelle-Zélande pour aller à la base côtière de McMurdo, qui est le centre opérationnel des Américains en Antarctique. C'est là qu'ils ont tous leurs avions. Et de là, ils couvrent l'ensemble de l'Antarctique. On va nous emmener au pôle sud pour s'acclimater, parce que on arrive là-bas, c'est l'été en Nouvelle-Zélande. Et puis tout d'un coup, on sait qu'on va aller à moins 60 degrés centigrades. Et pour nous acclimater, on nous emmène faire un petit tour au pôle sud. Du pôle sud, on repartira en avion sur la station Vostok et ensuite en raid et en avion jusqu'à la station côtière soviétique de Mirny. Donc tout ça, c'est une opération qui va prendre 4 mois, mais c'est de là, par exemple, qu'on a vraiment ramené tous les échantillons qui ont permis d'avoir notre première courbe qui faisait 150 000 ans. C'est donc 84-85, 2 ans après les résultats de l'analyse. C'est pour ça que je dis qu'il y a 20 ans, on avait dit, nous, en regardant dans le passé, on voit que le climat va se réchauffer. Et donc, passage au pôle sud, là aussi c'est un point vraiment mythique. Hein. Vous savez que l'année géophysique internationale là, dans laquelle j'étais, mais moi j'étais rien, hein, j'étais un étudiant comme vous, c'est-à-dire, bon, on pesait pas lourd. Mais après ça, il y a quand même un traité unique, qui est le traité de l'Antarctique, qui fait que ce continent, en gros, il n'appartient à personne. Il est dédié à la recherche... et à la paix, et c'est un patrimoine commun de l'humanité. C'est quand même un statut tout à fait unique. Et ça, ce sont les drapeaux des 12 pays qui, à l'époque, ont signé le traité de l'Antarctique. Maintenant, presque tout le monde l'a signé, mais en tout cas, le drapeau français, nous, on était à la base Charcot, là, à cette occasion. Alors, quand on vole depuis la base du pôle sud, parce que la collaboration entre scientifiques marche bien, mais quand même, les télécommunications, c'est plutôt les officiels qui contrôlent ça, et on n'a pas de contact radio directement avec les soviétiques. Donc les Américains prennent un gros risque. Est-ce qu'on a préparé un endroit où l'avion pourra se poser? Ça fait rien, on y va. Donc à bord, il y a 3 Français, et on arrive au-dessus de cette base-là, perdu des milliers de kilomètres autour, il n'y a que de la neige et que de la glace. On a été prudents, c'est-à-dire qu'avec nous, et grâce aux Américains, et on amène du courrier à ces gens-là. Ils n'ont rien reçu depuis à peu près 1 an, donc on risque d'être bien vus. On amène aussi, c'est de la viande américaine, de quoi manger, parce qu'ils n'ont plus grand-chose. Vous voyez là, ce qui pend. Puis on n'avait pas oublié non plus d'amener quelques bonnes bouteilles, parce que vraiment c'était nécessaire. Les conditions de vie, c'est un sauna toutes les semaines. Mais d'abord, il faut faire la corvée de neige au son de l'international. Ah ouais. Mais bon, ça marche quand même, hein. On est content d'aller un peu là-dedans. Donc on passe à peu près 2 mois là avec nos amis, on va rentrer vers la côte avec ce convoi qui se déplace à une vitesse de quelques kilomètres par heure. Ça prend du temps. On arrive à la côte, à la base côtière, Mirny, et quand on arrive, voilà l'état de la mer. Ça veut dire que on se demande comment on va en sortir. Et la banquise, c'est fragile, comme on le dit tout le temps. C'est vrai, il y a une tempête, et 2 jours après, le navire des expéditions polaires françaises qui vient du Mont-d'Urville, il passe et il nous récupère. Donc, nous, on s'en va, on est content, on a fait ce qu'on voulait, et on laisse nos amis soviétiques là-bas. Il n'y en a aucun qui parlait ni anglais ni français. Hein, donc, enfin, ils jouaient bien de la guitare, et on aimait bien chanter avec eux, ça facilitait les relations. Et quand le bateau soviétique vient chercher ceux qui avaient passé 1 an, la banquise s'est refermée. Donc avant qu'ils puissent être récupérés, il a fallu qu'ils envoient un brise-glace nucléaire depuis Vladivostok, alors quand même vous avez fait un peu de géographie, vous savez que c'est à l'autre bout du monde, pour venir sortir les hivernants. Alors, nous on n'était plus là, et Et d'ailleurs, c'était mon grand regret parce que tous ceux qui ont été là encore ont été faits héros de l'Union soviétique. Mais là, j'ai loupé. Voilà.
C'était le glaciologue et académicien des sciences Claude Lorius. À travers le récit de ses expéditions entre 1957 et les années 90 dans les pôles, il a réalisé un compte-rendu de la fonte des glaces continentales et des mers résultant du réchauffement climatique. Cette conférence que vous venez d'entendre avait lieu dans le cadre de la Semaine de la science en octobre 2007. Alors pour en savoir plus sur Claude Lorius, vous pouvez écouter l'émission qui lui est consacrée sur Canal Académie, www.canalacademie.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.